présentée ce soir par Isabelle Souquet. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir. C'est comme si c'était fait après 3 ans de tergiversation. Londres s'apprête à tourner le dos à l'Europe. Brexit programmé le 31 janvier. Résultat de la victoire sans appel de Boris Johnson aux élections législatives qui a vu une victoire écrasante des conservateurs. L'Algérie a un nouveau président issu du CERA et ancien premier ministre d'Abdelaziz Bouteflika. Pas de quoi calmer la colère de la rue. Les Algériens se sont abstenus d'aller voter hier. En France, suite d'une grève dont on ne voit pas encore le bout, la semaine prochaine s'annonce encore extrêmement tendue, malgré l'invitation du Premier ministre à une nouvelle discussion à Matignon. L'usine Lubrizol de Rouen pourrait reprendre une partie de ses activités dès ce week-end, 3 mois à peine après l'incendie qui a ravagé le site et causé une énorme pollution. Et à la fin, c'est Boris Johnson qui l'emporte. Le Premier ministre britannique a été reçu ce matin par la reine Elisabeth qui l'a chargé de former un nouveau gouvernement. Le ministre sortant qui a donc remporté une victoire écrasante aux législatives anticipées. L'avance des conservateurs dans ce scrutin est d'une ampleur sans précédent, 365 sièges sur 650. Et face aux conservateurs, les travaillistes accusent une défaite, elle aussi sans précédent pour le Labour, qui perd 59 sièges. Le Brexit devient inévitable, il sera effectif le 31 janvier prochain, après un feuilleton de 3 ans. Reportage Marie-Pierre Véraud.
Ils n'ont plus le cœur de venir manifester à Westminster. Eux qui se sont mobilisés depuis 3 ans pour crier leur amour de l'Europe, les Remainers ont jeté l'éponge. Ils ne peuvent plus empêcher le Brexit. Seuls quelques-uns sont venus traîner leur tristesse devant les grilles du Parlement, comme Anthony, 19 ans. Il est, dit-il, venu pour essayer de comprendre ce qui s'est passé.
C'est un jour triste pour le pays. C'est un jour triste pour les classes populaires qui ont voté contre leurs propres intérêts et en faveur d'un parti raciste.
Les clameurs des supporters de Boris Johnson couvrent sa voix. Shelby erre elle aussi en serrant son manteau dans le vent glacial. Elle se dit dégoûtée. Elle travaille dans le secteur de l'éducation et redoute de nouvelles coupes budgétaires malgré les promesses.
Je pense qu'ils vont passer très vite toute une série de lois qui ne feront pas l'objet d'un examen approfondi. La majorité parlementaire des conservateurs est tellement importante qu'il sera difficile pour les voix de l'opposition de se faire entendre. Et dans 10 ans, on perd encore les conséquences des décisions qui vont être prises dans les prochaines semaines.
Cela montre bien que l'on vit dans une bulle. Ici, à Londres, intervient Zayn. Il a 26 ans et reconnaît que tous ses amis votent Labour ou libéral-démocrate. Londres, dit-il, est déconnecté du reste du pays.
Le seul espoir, c'est que la majorité est tellement grosse que Boris Johnson pourra peut-être se permettre de négocier un Brexit plus doux. Il pourra faire des compromis et ne sera pas otage des forces les plus radicales comme le DUP. C'est ce que j'espère.
Voilà l'espoir tout de même pour demain, mais ce soir...
Beaucoup d'entre nous sommes tristes et avec mes amis, on va se retrouver ce soir et se saouler pour tenir le coup.
Marie-Pierre Véraud à Londres. Boris Johnson aura ensuite jusqu'à la fin de l'année pour négocier un accord de libre-échange avec l'Union européenne. Un délai très court, ont souligné Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, et Charles Michel, le président du Conseil européen, pour un accord pour lequel les partenaires européens demandent aux Britanniques un certain fair-play. Ainsi Emmanuel Macron, qui a appelé le Royaume-Uni à ne pas devenir un concurrent déloyal de l'Union européenne après le Brexit. Mon souhait, dit le président, c'est que le Royaume-Uni reste un pays allié, ami et un partenaire extrêmement proche. La condition, c'est de définir les règles d'une relation loyale. Outre-Atlantique, ce n'est pas tout à fait le même son de cloche. La victoire des Tories a été saluée d'un tweet tonitruant de Donald Trump. La Grande-Bretagne et les États-Unis seront désormais libres de conclure un nouvel accord commercial massif après le Brexit, a tweeté le président, plus important et plus lucratif que tout accord qui pourrait être conclu avec l'Union européenne. Et côté commerce international, le président américain a en ce moment décidément le vent en poupe après 1 an et demi de bras de fer entre les 2 superpuissances économiques mondiales, Chine et États-Unis. La tension retombe. Les 2 pays viennent d'annoncer qu'ils sont parvenus à un accord commercial, un accord préliminaire, intermédiaire qui va se dérouler par étapes. Mais en tout cas, Grégory Philippe, c'est un accord qui tombe à point nommé pour Donald Trump.
Oui, écoutez, à 10h du matin, heure de Washington, la commission judiciaire de la Chambre des représentants votait les deux chefs d'accusation qui visent Trump en vue de son impeachment la semaine prochaine. Et puis 15 minutes plus tard, le 45e président des États-Unis annonçait sur Twitter cet accord commercial avec la Chine. C'est un accord fantastique pour tout le monde, écrit Trump. Merci, point d'exclamation. Alors, dans un premier temps, Washington va donc renoncer à imposer les nouvelles taxes qui devaient s'appliquer dès dimanche sur 160 milliards de dollars d'importations chinoises. Puis les États-Unis réduiront par étapes leurs droits de douane sur certains produits fabriqués en Chine. En contrepartie, Pékin s'engage à acheter des produits agricoles américains, du soja notamment, à hauteur de 50 milliards de dollars environ, mais aussi des biens manufacturés et de l'énergie. Précision, vous l'avez dit, il s'agit d'un accord de phase 1. Les négociations vont se poursuivre immédiatement, mais c'est vrai que c'est une pause dans cette guerre commerciale dont l'annonce tombe à pic pour la Maison Blanche.
Grégory Phillips à Washington pour France Culture. L'Algérie a un nouveau président, Abdelmadjid Tebboune, 74 ans, ancien ministre puis ancien chef de gouvernement du président Abdelaziz Bouteflika, a donc été élu dès le premier tour. Il a recueilli 58,15% des suffrages d'un scrutin marqué par une abstention record et après un mouvement de contestation d'une ampleur jamais atteinte depuis l'indépendance. 6 Algériens sur 10 ont boudé les urnes. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'Abdelmadjid Tebboune ne représente pas le renouveau tant demandé par la rue ces derniers mois. Le reportage de Mathilde Dehimi.
Le parcours est le même que depuis 43 vendredi. Alger est noir de monde et plus déterminé que jamais. Kaïna, 25 ans, rejette l'élection du nouveau président Abdelmadjid Tebboune, 74 ans.
Bouteflika n'est pas parti, il est toujours là, sous une autre personne, on va dire. Mais c'est toujours le règne de Bouteflika qui est là. Et c'est pas pour avoir Tebboune comme président qu'on va s'arrêter.
Abdelmadjid Tebboune, longtemps préfet, puis ministre, puis éphémère premier ministre d'Abdelaziz Bouteflika, connaît le jour même de son élection une crise de légitimité, dit Tarek.
C'est un irrespect pour nous, parce que nous, on réclame quelque chose. Il nous envoie le message de « on s'en fout du peuple ». Ils sont dans une réflexion de continuité. Pour nous, ces élections n'ont absolument rien de légitime. Elles n'ont pas lieu d'être. Ça n'a aucune signification, puis on continuera de toute façon jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de système.
La foule chante « nous voulons une deuxième indépendance ». Le mot d'ordre « Selmiya pacifique » ne changera pas, mais l'attitude de la police reste une inconnue, reconnaît Rachid.
Je suis sûr et certain que dans quelques jours, une fois placé le président Poutiche, nous allons vivre une répression. J'ai peur pour ce peuple, parce que ce régime militaire, il est prêt à tout pour qu'il reste aussi au pouvoir.
Certains craignent que les manifestations, notamment celles des étudiants du mardi, soient désormais interdites, le pouvoir souhaitant tourner la page de ce mouvement.
Mathilde Dehimi, Alger. Torture, mauvais traitement, détention arbitraire, viol de détenus, la répression des manifestations au Chili a été terrible. L'ONU présentait aujourd'hui un rapport qui dénonce de multiples violations des droits de l'homme par les forces de police chiliennes. À Genève, Jérémy Lange.
Les enquêteurs des Nations Unies ont interrogé 236 victimes. Leur constat est sans appel pour les forces de sécurité accusées de multiples violations des droits humains. L'ONU a pu documenter 113 cas de torture et de mauvais traitements, 24 cas de violences sexuelles commises par les forces de police. La chef de l'équipe de l'ONU, Ima Guerras Delgado, a aussi pu parler avec les nombreux manifestants éborgnés par les tirs de chevrotine.
Le nombre alarmant de manifestants qui ont été blessés aux yeux témoigne de la gravité de la situation. 345 personnes ont été atteintes par des projectiles. Et maintenant, nous voyons aussi des blessures aux yeux qui ont été causées par des tirs de grenades lacrymogènes.
Le mois dernier, un chef d'unité ophtalmologique à Santiago s'inquiétait déjà du nombre record de manifestants blessés aux yeux, bien plus que dans les manifestations à Hong Kong ou en France pendant la crise des Gilets jaunes. L'ONU évoque le cas d'un étudiant de 21 ans devenu complètement aveugle après avoir été atteint aux deux yeux. Les enquêteurs demandent aux autorités de mettre fin aux tirs indiscriminés contre les manifestants et de respecter leur droit de manifester pacifiquement. Plus de 28 000 personnes ont été arrêtées depuis le début des troubles le 18 octobre. 1615 sont toujours en détention.
Jérémy Lange à Genève. Les grèves en France, pas d'essoufflement au 9e jour, dans les transports en commun en particulier, toujours extrêmement perturbés. Le Premier ministre voudrait éviter que cette grève ne se durcisse à l'approche de Noël. Il a invité les partenaires sociaux la semaine prochaine à Matignon pour une nouvelle discussion sur sa réforme des retraites. Jusqu'à présent, Emmanuel Macron s'était tenu lui plutôt en retrait. Il est sorti de son silence aujourd'hui à l'issue d'un conseil européen, Rosalie Lafarge.
Oui, parce que face à beaucoup de journalistes, Emmanuel Macron n'a pas pu échapper aux nombreuses questions sur cette réforme des retraites. Et même s'il n'avait pas très envie, il a fini par y répondre.
C'est une réforme historique pour le pays. Historique pour la refondation d'un État-providence du XXIe siècle. Nous le faisons parce que je pense que c'est essentiel pour notre pays. La France en a besoin et les générations futures en ont besoin pour recréer la confiance dans le système de retraite et une plus grande justice grâce à un système universel.
Et le président tient à insister sur un point, celui qui fait débat depuis le discours du Premier ministre.
C'est une réforme de transformation de notre système et qui va donner, je dirais, sa pleine force dans le temps. Elle n'est donc pas, je dirais avant toute chose, budgétaire.
Peut-être pas avant tout, mais en partie quand même. Et c'est là que le bât blesse. Depuis l'annonce par le Premier ministre d'un âge d'équilibre à 64 ans et du système de bonus-malus qui l'accompagne, les syndicats dits réformistes sont furieux. Furieux, mais pas totalement fermés. Et c'est là où le calcul du gouvernement a peut-être été le bon. En choisissant de faire de la CFDT son seul interlocuteur, l'exécutif n'a finalement presque plus qu'elle à faire revenir à la table des négociations.
Je crois qu'il est bon que le gouvernement soit à l'œuvre. Poursuivre le travail et avance.
Pour essayer d'avancer, le Premier ministre est à Nancy ce soir avec le ministre de l'Éducation. Ensemble, ils vont tenter de convaincre des enseignants des bienfaits de la réforme en espérant qu'après les policiers hier, les profs décident, pourquoi pas, à leur tour, de suspendre leur mobilisation.
Et de leur côté, les travailleurs indépendants veulent aussi maintenir la pression. Information France Culture, les avocats appellent désormais à une grève interprofessionnelle de la justice le 6 janvier prochain. Ils craignent que le futur régime universel ne siphonne leur régime autonome. Actuellement à l'équilibre. Une réforme qui se fera peut-être d'ailleurs sans Jean-Paul Delevoye. On a appris que le haut commissaire aux retraites envisage de démissionner. L'accusation de conflit d'intérêts a pris le pas sur tout autre sujet à tel point qu'il envisage son départ s'il devient, dit-il, un sujet de fragilité. La loi contre la lutte contre le gaspillage, l'Assemblée s'attaque aux invendus non alimentaires et vient de voter l'interdiction de la destruction des invendus, une mesure qui concernera les produits d'hygiène et aussi de textile. À partir de 2022, ils devront donc être donnés ou recyclés. Moins de 3 mois après l'incendie monstre qui a dévasté une partie des installations, l'usine Lubrizol près de Rouen devrait rouvrir dans les heures qui viennent. Réouverture partielle, démarrage progressif qui va commencer par le réapprovisionnement en matières premières. Le préfet qui s'exprimait sur ce sujet à la sortie d'une réunion du comité pour la transparence et le dialogue sur l'incendie a tenu à souligner l'ampleur des dispositifs anti-incendie imposés pour la réouverture. Étienne Monin.
Ce calendrier aura été rapide, la décision d'après le préfet sera effective dans la journée, le redémarrage sera plus progressif, l'acheminement des matières premières pourrait prendre plusieurs jours, plus d'une centaine de salariés seront mobilisés. Le redémarrage doit se faire dans 2 unités de mélange qui n'ont pas été touchées. Un important dispositif anti-incendie a été imposé d'après la préfecture. Les ateliers font du mélange de détergents ou d'antioxydants, mais la mise en fût et le stockage se fera sur un site extérieur après transport des matière en camion-citerne. Lubrizol avait poussé pour cette reprise partielle de l'activité au nom de l'emploi. Elle a été soutenue par les services de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Elle était contestée par certains élus locaux et 2 associations de défense de l'environnement. Elle a été validée cette semaine par le Conseil départemental de l'environnement et des risques, ce qui fait dire au préfet qu'elle est majoritairement soutenue.
Un homme a été abattu ce matin à la Défense, près de Paris, par une patrouille de policiers. L'homme s'est attaqué à eux en hurlant « Je vais vous tuer ». Il était porteur d'une arme blanche, mais n'est pas parvenu à les blesser. L'homme âgé d'une 30aine d'années a pu être identifié. On ne sait rien sur les motivations de son geste. Il ne fait pas partie, en tout cas, des personnes signalées ou fichées pour radicalisation à caractère terroriste. Alerte au crack, selon l'Observatoire français des drogues et toxicomanie, ce n'est plus la drogue des déclassés. Elle est de plus en plus consommée par des personnes qui travaillent et qui sont socialement intégrées. Une évolution qui s'inscrit dans un contexte d'accès facilité à la cocaïne et à la baisse de son prix. Explication d'Agnès Cadet-Taïdou, médecin de santé et co-auteur de l'étude.
Le crack, ça se vend en très petite quantité. Vous avez un caillou pour 20 euros, voire 10 euros, et donc ça représente déjà pas des sommes très importantes. Pour les usagers précaires, c'était intéressant parce qu'on fait la manche, on récupère 10 euros et on peut avoir une petite dose. Les usagers plus insérés, en fait, ils n'achètent pas les 3/4 du temps du crack. Ils vont pas. Le marché du crack, il existe essentiellement à Paris. C'est plus artisanal, en fait, ce sont des usagers eux-mêmes qui font la manipulation de transformer en crack, on appelle ça basé, ou alors leurs proches. C'est pour ça que c'était aussi beaucoup moins visible, parce qu'il n'y avait pas de marché, ce qu'on appelle de marché du crack. Là, on voit dans quelques villes, dans le rapport, on en cite quatre, l'émergence de peut-être micro-trafic, en fait, de crack. Il faut qu'on attende 1 ou 2 ans pour voir si ça va perdurer. C'est un phénomène en fait qui s'était constitué un peu à bas bruit, de façon très peu visible. L'arrivée de flux importants a intensifié le phénomène et maintenant ça se voit. Donc on voit des usagers qui étaient un peu vulnérables mais socialement insérés qui perdent pied complètement parce que le crack est beaucoup plus addictif que la cocaïne. Ça peut aller très vite. Et en fait, les seuls usagers qui restent socialement insérés, pratiquement, ce sont des usagers qui ne consomment pas régulièrement, qui font des sessions de consommation et puis, comme on dit dans le rapport, qui arrêtent quand il n'y a plus de stock.
Le médecin Agnès Cadet-Taïdou au micro d'Anne Crochon. Les intempéries dans le sud de la France ont fait déjà 1 mort et 5 blessés. Un automobiliste a été tué à Hilar, au Pays Basque, quand sa voiture a percuté un arbre tombé sur la chaussée. Ce sont encore des arbres tombés sur leur voiture qui ont causé les blessures des 5 personnes touchées dans les Landes et le Lot-et-Garonne. Le pronostic vital de l'une d'elles est engagé. 9 départements sont toujours en vigilance orange en Aquitaine, en Occitanie et en Corse. Dans les Alpes, Météo France met en garde contre un fort risque d'avalanche. Isère et Savoie sont passés en vigilance orange dans ce domaine. 18h16 à l'écoute de France Culture et du journal de 18h proposé par Isabelle Souquet et présenté par Isabelle Souquet et proposé aussi par Jean-François Braun.